Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la bulle de So Sweet Planet, un podcast qui vous propose un focus sur un événement en lien, bien sûr, avec les thèmes de So Sweet Planet, environnement, culture et droits humains. La bulle s'intercale de temps en temps entre deux épisodes habituels du podcast de So Sweet Planet. Aujourd'hui, je reçois et j'ai grand plaisir à accueillir sur So Sweet Planet Olivier Bétourné. Bonjour Olivier Bétourné.
Bonjour Anne Greff.
Vous êtes éditeur, vous avez été entre autres président directeur général des éditions du Seuil, vous avez assumé des fonctions de direction chez Fayard et Albin Michel et présidé la collection Point, entre autres, parce que je ne vais pas tout détailler. Vous êtes aussi historien et j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui sur So Sweet Planet parce que j'ai découvert et j'ai été emballée par l'excellente programmation des conférences de l'Université populaire du Musée du Quai Branly. Et à l'heure où tout le monde s'exprime sur tout et n'importe quoi en permanence, où les fake news pullulent et se répandent comme des traînées de poudre, où des idées et des émotions fondées sur rien essaient et réussissent souvent à être adoptées par les foules, eh bien j'ai trouvé que l'ensemble de ces paroles érudites, mesurées, sage avait quelque chose de rafraîchissant et de salvateur au cœur de la période que nous traversons. Et cette excellente programmation, vous en êtes responsable, Olivier Bétourné. Donc merci et bienvenue sur So Sweet Planet.
Merci à vous.
Avant de discuter plus en détail de cette programmation, est-ce que vous voudriez nous rappeler le concept de l'université populaire en général et de celle-ci en particulier ?
Alors l'idée des universités populaires, elle est très simple. Elle est au fond d'offrir au public, un public généraliste, non spécialisé, non inscrit dans des cursus universitaires classiques, un savoir qui est dispensé, alors selon les cas, par des conférenciers qui ont telle ou telle spécificité, telle ou telle qualité, ou bien telle autre. Pour ce qui est de Branly, du musée Branly, cette université a été créée il y a 13 ans maintenant, à l'initiative de Catherine Clément, et s'est développée sur un registre de référence, c'est-à-dire un registre assez universitaire, mobilisant des philosophes, des spécialistes de tel ou tel domaine, des connaisseurs, référencés, des questions qu'ils traitaient. Depuis un an, j'ai pris le relais et j'ai donné une tonalité légèrement différente à cet ensemble de communications et de conférences. Au fond, je suis parti un peu du même constat que vous, et je me suis dit comment faire en sorte que le public de bonne volonté, le public généraliste, non spécialiste des choses, puisse être informé convenablement et de façon sécure, en quelque sorte, sur les grandes questions qui nous habitent, qui nous traversent et auxquelles nous sommes confrontés. Alors, il n'y a pas de chemin pour y parvenir. Il faut évidemment avoir recours à des spécialistes. Mais les spécialistes, c'est une chose, mais si c'est pour dispenser des conférences inintelligibles pour le grand public, c'est bien pour l'attention, mais le résultat n'est évidemment pas satisfaisant du tout. Et j'ai considéré que mobiliser ces spécialistes, j'y reviendrai dans un instant, c'était leur donner l'occasion à eux d'abord de se frotter un autre public, un public généraliste, donc d'entendre, d'avoir des retours au fond de ce que le grand public pense de ce qu'ils font, et évidemment, pour ce grand public, la possibilité d'accéder à un savoir que sans cela, auquel il n'accéderait pas. Et n'y accédant pas, évidemment, perdrait au fond beaucoup de ce que la science, le savoir, tout ce qui aujourd'hui contribue à éclairer une société est susceptible de leur apporter. Ça, pour moi, c'est très important, c'est une rencontre. C'est pas quelqu'un qui dispense un savoir du haut de sa chair, c'est quelqu'un qui est en contact avec un public, se met à son niveau en quelque sorte de compréhension et lui apporte un supplément de compréhension. Ce qui m'a toujours inspiré dans mon métier d'éditeur, mais qui est au fond un métier de communicant aussi, il faut le dire, c'est que je suis convaincu que le public est susceptible de faire des détours par des analyses éventuellement un peu complexes à partir du moment où il a l'assurance qu'à la sortie, il comprendra mieux le monde qui l'entoure. C'est ce que j'appelle moi dans mon métier le pari de l'intelligence. J'ai essayé de le répliquer, en quelque sorte de le reconduire à travers l'organisation de ce programme de Branly, qui pour moi a été évidemment une très grande stimulation. Si vous m'autorisez d'ailleurs juste une petite remarque là-dessus, au fond, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il s'occupe de ça ? Eh bien, c'est une question qu'en effet, on est légitimement conduit à se poser. Alors, la réponse est très simple, et elle est très, très sensuelle, si vous me passez l'expression. Parce que je pense que la sensualité et l'intelligence et la communication des choses de l'intelligence, ça a quelque chose à voir. Alors, je me suis trouvé à 3 reprises comme conférencier invité par Catherine Clément, donc à faire le show, à faire le numéro sur des questions d'histoire dont j'ai en effet sur lesquelles j'ai quelques connaissances, et j'ai été absolument séduit par le lieu. C'est le lieu qui m'a donné envie d'habiter cet espace. C'est une scène de théâtre entourée par un amphithéâtre, inscrit dans un amphithéâtre. Et l'orateur se trouve au centre de la scène, mais qui est une scène très profonde, très très belle, une espèce de comme la Comédie française, hein, quelque chose de cet ordre-là. Et
donc le musée du Quai Branly.
Dans le musée du Quai Branly, ça s'appelle l'amphithéâtre Lévi-Strauss. Il faudra venir le voir lorsque nous pourrons à nouveau le fréquenter. Vraiment, il faut le voir, parce que c'est ce que je dis là, il faut le voir. On comprendra, je pense, quand on le verra. Et puis sur cette scène et entouré donc par cet auditoire qui est toujours en nombre, et on a à peu près 500 places qui sont le plus souvent garnies d'auditeurs, ce qui est bien, ce qui est très stimulant pour tout le monde, pour les conférenciers, pour moi, pour tout ce qu'on voudra. Alors on est là entouré et aidé et soutenu par une technique d'éclairage, de sonorisation, de très grand professionnalisme et qui est très séduisant et très satisfaisant pour le conférencier que j'étais. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a proposé de prendre quand Catherine m'a parlé de prendre, Catherine Clément a parlé de prendre la suite de son programme, je n'ai pas hésité, j'ai dit oui tout de suite, mais c'est en pensant à ça, c'est en pensant à ce plaisir-là. Et je me suis dit que ce cadre était propre à réaliser l'échange dont je vous parlais pour commencer, c'est-à-dire celui d'un public de bonne volonté et de désir d'accéder à un savoir, et d'un autre côté de grands spécialistes susceptible de dispenser ce savoir à ce public-là. Voilà, c'est la vraie raison pour laquelle je me suis engagé dans cette affaire. Et je m'en suis trouvé très heureux. Alors, il faut savoir que ça fait un an ou un an et demi maintenant que j'y travaille, et qu'évidemment, la première année qui s'est ouverte le 1er janvier 2020 a été très sérieusement perturbée par ce que vous savez. Mais c'était un défi de plus qui nous a brimé dans un premier temps, parce que fermeture, confinement, déconfinement, hésitation, retour en arrière, bref, tout le scénario que vous connaissez, je ne fais pas le numéro plus que ça, et il nous a quand même fallu être, je crois, assez imaginatifs et entreprenants pour inventer en quelque sorte un module, un format, comme on dit dans les médias, un peu original et je crois très dynamique, et qui en tout cas est actuellement mais couronné d'un succès qui n'a rien à voir avec le succès que nous avions remporté dans notre amphithéâtre, avec nos 300 ou 500 personnes qui assistaient à chaque séance. Là, ce sont des milliers de gens qui sont présents et qui viennent à notre rencontre. Donc c'est assez bouleversant, je le dis très simplement, mais je suis quand même assez bouleversé par ce succès que je ne m'attribue pas, mais que j'attribue à tout le contexte dont je suis en quelque sorte le chef d'orchestre. Et c'est une récompense compte tenu de ce que je vous ai dit de l'intention de départ.
Oui. Est-ce que vous étiez déjà livré à ce type d'exercice ?
Non. Non. Alors, peut-être qu'il faut que je vous dise un peu comment ça se passe aujourd'hui par rapport à la façon dont ça se passait avant. Avant, c'était tout simple. Les gens arrivaient le mercredi 18h30, ils s'installaient, et puis nous avions choisi, j'avais repris un peu le module de Catherine Clément, les orateurs, les conférenciers arrivaient dans le rejoignaient leur pupitre ou leur petite chaise et leur table et commençaient sans autre forme de procès. C'est-à-dire, je ne présentais pas, les gens étaient informés à l'avance, ils étaient préparés à cela. Ça se fait dans un contexte d'une très très grande écoute, une qualité d'écoute absolument incroyable qui frappe d'ailleurs tous les conférenciers. Et au fond, au bout d'une heure, ils savaient qu'ils avaient une heure de conférence, et la demi-heure suivante, c'était les questions de la salle, souvent très pertinentes, très stimulantes, très satisfaisantes aussi pour moi, qui a assisté à tout ça, et puis l'affaire était terminée. Là, évidemment, il nous a fallu inventer un autre concept, parce qu'aujourd'hui, je suis seul dans l'amphithéâtre, avec les techniciens, et ça j'adore, parce qu'il y a le côté technique, c'est presque une émission de télé, hein. C'est presque une, oui. C'est presque, j'allais dire Bernard Pivot, je ne devrais pas dire ça parce que c'est un modèle de référence absolue, et c'est un ami. Mais néanmoins, ça ressemble plus à une émission de télévision qu'à une, qu'à une conférence à la salle Pleyel d'autrefois. Donc, j'interviens davantage, j'accueille davantage, j'anime davantage et j'interviens beaucoup dans la séance question. Donc, il y a quelque chose qui s'est un peu délié en quelque sorte, qui est devenu plus dynamique, peut-être plus séduisant pour le public. La question, c'est que nous n'avions pas le choix, parce que les visioconférences, c'est bien, mais il y a un côté un peu figé, un peu qui introduit une sorte de distance, et donc il fallait introduire de la fluidité. C'est comme ça que nous avons procédé. Et je suis, alors évidemment, je suis encore un peu amateur dans mon rôle d'animateur et de présentateur d'émissions d'informations, oui. Mais j'apprends à chacune d'elles. On a trois caméras, on a des techniciens géniaux, il y a une espèce de tension sur le plateau avant l'ouverture, comme à la télé d'ailleurs. Tout ça, c'est bien, ça me plaît. Moi, je progresse, je prends un autre métier, ce qui pour moi est génial. Et je crois que tout le monde y trouve son compte. Les réactions du public, c'est ce que je vous dis, c'est-à-dire l'affluence et la réponse à la question qu'on pourrait se poser. Et puis les likes sont comme il faut qu'ils soient. Non, ça va, on est content. Mais c'est vrai qu'a priori, rien ne me préparait à me confronter à ça. Alors, je dois dire que les intervenants, eux, les conférenciers, qui sont généralement on aura l'occasion d'y revenir, mais enfin, des gens dont la réputation, comment dirais-je, scientifique et universitaire est absolue. Hein. Il y a des professeurs au Collège de France, c'est vraiment d'un niveau très, très élevé. Ce sont des gens qui ont une réputation internationale, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits dans des débats et dans des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on dispense un savoir univoque, unilatéral, qui vous tombe sur la tête comme ça, et puis c'est comme ça et pas autrement. Non, non. En revanche, ce à quoi nous échappons, par ce que j'ai souhaité mettre en œuvre, c'est évidemment le débat du café du commerce. C'est le débat d'opinion. C'est le débat que vous pouvez voir, et qui est d'ailleurs souvent extrêmement intéressant et parfois d'ailleurs informatif, sur les chaînes d'information en continu, qui font des choses de qualité, parfois, pas toutes, et pas à chaque moment. Il y a une autre chose aussi qui me plaise moins. Mais en tout cas, on n'est pas là pour dire « voilà la science et voilà ce que vous devez savoir ». Non, il y a aussi des choses contradictoires sur tel sujet. On peut avoir des points de vue critiques, mais toujours, les conférenciers interviennent avec les armes du savoir, de la science, des archives pour les historiens, des instruments de pensée pour ceux qui sont inscrits dans d'autres disciplines universitaires et de pensée. Il y a des règles. Il y a des règles. On ne peut pas lâcher comme ça dans le n'importe comment et dispenser ou prétendre dispenser un savoir sans tenir compte de ces règles. On peut le faire. Les médias y invitent aujourd'hui. Eh bien, je pense qu'il est très important de réguler cette information et de faire en sorte que chacun sache exactement à quoi il doit s'attendre. Étant entendu, ce sera ma dernière réserve sur ce point, que, encore une fois, je trouve parfaitement légitime qu'il y en ait pour tout le monde. On a envie de se distraire en regardant un débat ou une espèce de punching ball entre deux personnalités qui ont envie de se foutre sur la gueule. Très bien, c'était, pourquoi pas ? Moi, je suis pour la liberté de tout, mais à condition qu'on sache exactement à quoi s'en tenir. Et que lorsque on vous dit on va parler de tel sujet, eh bien, on parle véritablement de tel sujet et qu'on ne vous raconte pas n'importe quoi parce que l'orateur du jour, qui peut être d'ailleurs très brillant, n'a pas la compétence suffisante pour en parler avec un savoir établi et suffisamment établi. Quitte encore une fois à ce que ce savoir soit critiqué par ses pairs. Par ses pairs. Ça compte, quoi. Voilà.
Oui, d'ailleurs, j'ai vu ou entendu dans une des interviews que vous aviez données, que j'ai écoutées pour préparer celle-ci, je crois que c'était sur France Culture, que vous expliquiez qu'en tant qu'éditeur, pour vous, dans une maison d'édition, le débat était important, les pensées contradictoires, et que c'est ça qui rendait une maison d'édition vivante, si je retransmets bien.
C'est exactement ce que je crois, Et c'est ce que j'aurais au fond pratiqué pendant ces 40 quelques années de ma vie d'éditeur. J'ai eu la chance de le faire dans une, notamment dans une maison, on la cite, hein, on ne fait pas de publicité, mais enfin on la cite, c'est les éditions du Seuil, quand même pas n'importe quelle maison, vous l'avez d'ailleurs vous-même cité tout à l'heure, qui a installé depuis l'origine une sorte de structure de débat, de comité de lecture, de débat. C'est assez original, hein, assez unique dans le panorama de l'édition française. Et c'est vrai que de ce collectif, cette activité en collectif, jaillit, je dirais, la lumière, c'est-à-dire vraiment des idées construites. Et si le Seuil est aujourd'hui hégémonique dans le domaine des, je crois qu'on peut le dire vraiment hégémonique dans le domaine des sciences humaines, pas que lui qui fait des choses, mais disons que la maison est vraiment dominante, eh bien, je pense que c'est la résultante de ce travail collectif. Et qui n'est pas attribuable à tel ou tel. Il y a de très brillantes personnalités dans ce comité de lecture, mais enfin, il y a aussi surtout le collectif qui travaille et qui critique et qui est en contact avec des spécialistes des questions et qui ne cède pas sur la qualité de ce qu'il propose dans ce domaine-là des sciences humaines. Donc oui, j'y crois.
Voilà. Je rappelais ça parce que je le sentais bien au travers de ce que vous disiez et des questions qui ont été posées à la fin de la conférence que j'ai regardée là récemment de Benjamin Stora. On va en reparler un petit peu après. En fait, les questions, elles sont posées du coup en ligne, hein, puisque vous, vous êtes filmé dans la salle, dans ce beau théâtre que vous décrivez, du musée du Quai Branly. Votre interlocuteur, enfin le conférencier qui intervient ce jour-là est chez lui, ou en tout cas pas dans la même,
alors,
le même endroit
y a,
que vous.
Alors, il y a deux hypothèses possibles. Soit on le fait tous les deux in situ, c'est-à-dire qu'il est avec moi au théâtre, et les participants sont en visio, soit ils préfèrent, pour des raisons de sanitaires, enfin, qu'ils le regardent, le faire lui aussi en visio, donc je suis tout seul avec les techniciens dans le théâtre. Et les deux hypothèses sont possibles.
D'accord. Oui, parce que là, moi, je parle de la saison du coup 2020-2021 qui a démarré en décembre.
Oui.
Et où là, tous ces lieux-là, pour l'instant, sont fermés. Hein, parce qu'il faut que je précise pour ceux qui réécouteraient un an, parce qu'entre les périodes confinement, déconfinement, lieux ouverts ou lieux fermés, donc je dois situer à chaque fois le contexte dans lequel on enregistre.
On peut peut-être donner tout de suite un conseil aux amateurs, aux gens qui auraient envie de voir à quoi ça ressemble, c'est de vérifier quand même, semaine avant ou 48 heures avant, que la conférence est bien maintenue. C'est très bien indiqué sur le site, et tant qu'elle est indiquée en attente de démarrage, il y a une espèce de compte à rebours qui est indiqué, c'est qu'il n'y a pas de contre-ordre. Donc on peut se présenter à 18h30 via YouTube, et on est vraiment assuré d'avoir la conférence en question.
D'accord. Je ne sais pas si on l'a dit, mais en fait, le concept de l'université populaire, je crois que c'est toujours aussi gratuit.
Oui, absolument. Mais
tout est en accès libre.
C'est en accès libre et alors évidemment dans la mesure de la disponibilité des places libres. Et si on nous imposait des contraintes d'espacement d'un mètre, deux mètres, cinq mètres, et j'imagine qu'on en passera par là à un moment donné quand on retombera en direction de la normalité, alors ça réduira la capacité, la jauge comme on dit de la salle. Alors une fois cette salle contient en principe 450 à 500 places, on peut je crois étendre la jauge à 550, 600, quelque chose comme ça, en modifiant un peu le module, mais enfin évidemment ça peut aussi retomber à 200 si on est obligé de les gestes barrières, il faut connaître toute l'affaire, on verra bien, mais c'est évidemment dire ça qu'on tend. Mais ce que je dois aussi vous dire, c'est que l'expérience à laquelle on peut assister aujourd'hui, le format auquel on assiste aujourd'hui, on peut assister aujourd'hui, est tellement satisfaisant pour nous qu'on est en train d'imaginer, y compris lorsque les gens pourront se retrouver dans l'amphithéâtre, de maintenir une forme d'animation, de présentation, de questions comme ça, plus fluide et moins formelle que celle que nous pratiquions jusqu'à présent. Donc cette crise a du bon aussi, c'est qu'elle nous apprend, par le système de contraintes qu'elle nous impose, à imaginer d'autres choses, plus ouvertes peut-être, etc. Voilà.
Alors, avant de parler un peu plus de la programmation en elle-même, donc cette année a été, on le sait, particulière, on vient d'en parler, et rien ne s'est passé comme prévu. J'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous retirez de cette première année de programmation, même si là, on est à cheval sur la deuxième, en fait, déjà maintenant.
Alors, en fait, il faut considérer que l'année aura été 1er janvier 2020, fin février 2021. Alors, ça fait bizarre comme année, mais je crois qu'il faut considérer que le deuxième semestre aura été novembre-février, novembre 2020.
D'accord.
Et que le premier semestre aura été 1er janvier, 15 mars, en quelque sorte, c'est-à-dire autour du premier confinement. Alors, donc, de ce point de vue-là, c'est une année complètement bouleversée. Je vais y revenir dans un instant. Moi, ce que je retire de la première séquence, c'est-à-dire in situ, qui étaient mes débuts, hein, bah, c'est que franchement, on était quand même, on était très contents. Il y a eu un monde fou. J'avais développé un programme, peut-être que si vous m'autorisez à en dire un mot, c'est peut-être pas mal qu'on comprenne un peu ce que j'avais en tête.
Voilà, puisque c'était ma question suivante. Donc, c'est très bien de voir un petit peu vos intentions, les axes et
voilà. Alors,
les choix.
En fait, sur ce principe de prendre un peu de hauteur pour revisiter les événements courants, notre actualité au sens très large, hein, actualité politique, intellectuelle, culturelle aussi. Donc, c'est une ouverture totale. J'avais choisi d'organiser le travail autour de trois axes. Premier axe, on appelle ça des cycles au musée, enfin, peu importe. Donc, premier cycle, où va le monde ? Je ne commente pas, ce n'est pas la peine, tout le monde comprend. Deuxième axe, penseur d'hier et d'aujourd'hui, je ne commente pas, ce n'est pas la peine. Troisième axe, les grands entretiens. Et là, je voulais inviter des créateurs, des artistes, des gens qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui sont des créateurs dans tous les domaines d'activité, pour qu'ils nous rapportent un peu leur expérience du rapport au monde, à la création, etc. Parce que je trouve que cet investissement-là, qui n'a plus rien de théorique, en quelque sorte, qui est complètement direct, immédiat, et à prendre de plein pied, est extrêmement intéressant à prendre en considération. C'est plus un acteur qui va vous raconter ses spectacles, mais c'est un acteur qui va vous raconter les souffrances du créateur, en quelque sorte, ou la fabrique de la création à laquelle il est associé. On a fait, là, peu d'expérience, parce qu'encore une fois, on n'a pas eu beaucoup de temps et de séances, mais j'ai invité notamment Thomas Joly. Thomas Joly, donc, est un metteur en scène extrêmement brillant, qui a une trentaine d'années, et qui a une carrière mais brillantissime de dramaturge, d'acteur d'ailleurs devant lui. C'est pas quelqu'un qui, vous voyez, dont le nom est en haut de l'affiche, mais c'est quelqu'un qui sera. C'est un peu Patrice Chéreau, 20 ans avant qu'il soit Patrice Chéreau, je suis sérieux. Hein. Et Patrice Chéreau, c'était des années Nanterre, dans les années 70, et donc, peut-être pas 20 ans, mais 10 ans avant, il était déjà très très brillant, quoi. C'était quelqu'un qu'on sentait, etc. Eh bien, je pense que Thomas Joly, j'espère que je ne lui mets pas un poids trop lourd sur les épaules, c'est ça. Et ça, pour moi, c'était génial. Parce qu'il a parlé de sa façon de mettre en scène, ses rapports avec les acteurs, et c'était, au fond, détaché de toute spectacularisation de mise en scène de sa personne. J'espère que je me fais comprendre. Vous voyez ? Mais en même temps, ça parlait vrai, et ça parlait à tout le monde, et tout le monde avait envie de l'entendre. C'était un tabac incroyable. Donc ça, c'est un exemple. Je remonte sur mes deux premiers cycles. Où va le monde ? L'idée était de cadrer autour de ce qui m'apparaît comme les trois grandes dominantes de notre époque et qui organisent au fond la mondialisation dans laquelle nous sommes plongés. C'est un, le réchauffement climatique. Deux, les questions démographiques et d'immigration. Et trois, la croissance des inégalités. Si vous prenez ces trois pôles, vous avez vraiment le système de cartographie, en quelque sorte, de notre vie politique, culturelle, etc., ce que j'énumérais tout à l'heure. Et on a réussi à installer à peu près le dispositif, parce qu'encore une fois, ça s'est arrêté mi-mars, mais Thomas Piketty était sur les inégalités, était absolument formidable. Jean Jouzel et Valérie Masson-Delmotte ont été sur la question du réchauffement climatique et de notre environnement, brillantissime et extrêmement complémentaire, parce qu'ils se suivaient, mais il ne fallait pas qu'ils racontent la même chose. Donc ça a été absolument épatant. Et là, on était tous un peu scotchés, quoi. C'était, on en parlait déjà, hein, de tout ça, mais c'était quand même c'était le début de l'année. Hein, et on en parlait beaucoup moins que ce qu'on a parlé après, parce que c'est devenu maintenant un peu la tarte à la crème. Mais ils ont installé vraiment un savoir à nouveau critique et dynamique qui a vraiment enthousiasmé les participants. Sur les questions démographiques, c'était Hervé Lebras qui devait intervenir, et il n'a pu le faire que récemment, et on voit sa conférence, elle est disponible sur YouTube, elle a été formidable. Voilà les trois domaines. Alors ensuite, il y avait ce deuxième cycle, qui alors lui a été complètement sacrifié, je dois dire. Je crois qu'on a, on a pratiquement rien fait. Penseur d'hier et d'aujourd'hui, et l'idée de ce cycle, c'est au fond de revisiter les grands systèmes de pensée, les grandes figures intellectuelles d'hier et d'aujourd'hui, et d'évaluer à une distance d'un siècle, deux siècles, quelques décennies parfois, la validité de ce qui est apparu à un moment donné comme vraiment l'explication dominante de tel ou tel secteur. Alors Darwin, alors Einstein, alors Lacan, alors Marx, alors Freud, etc. Ça, c'est au programme. Alors, on a affaire à des gens qui connaissent évidemment très bien et qui mettent en contexte et qui font revivre la personnalité, parce que je crois beaucoup à ça. C'est pas seulement les idées, c'est aussi la personnalité, mais qui les mettent en scène et qui les font revivre de façon critique, en mettant à distance et en voyant ce qu'ils apportent à notre époque et à l'éclairage de notre époque. Autrement dit, il n'y a rien d'académique là-dedans. On n'est pas là pour faire un cours sur Freud, un cours sur Lacan, un cours sur Darwin, non. C'est une évaluation critique d'une œuvre et qui doit déboucher, si on a réussi le coup, sur à quoi ça sert aujourd'hui, quoi. Oui. Donc là encore, on renvoie toujours à l'actualité, c'est ça que je veux faire. Quant aux grands entretiens, on en a fait très peu. On en a fait un en dehors de Thomas Joly, on en a fait un autre avec Charles Anderlin. Là, Charles Anderlin, c'est un journaliste. Rien à voir donc avec la mise en scène, mais journaliste dans un pays en guerre qui est Israël, et qui nous a raconté, ça donnait lieu vraiment à... C'est une séance, on était scotchés, quoi. Ce que c'est que de rendre compte de la vie comme ça, politique, depuis un pays en guerre, et pas n'importe quel pays. C'était passionnant. Donc il y a toujours ça, c'est-à-dire cette dimension très personnelle, d'investissement très personnel dans l'entretien. C'est pourquoi j'ai décidé qu'à partir du moment où on confinait, déconfinait, reconfinait, il fallait arrêter les grands entretiens. Parce que les grands entretiens en visioconférence, franchement, c'est un massacre. Parce qu'il y faut contact presque personnel, il faut sentir la personnalité que vous avez en face de vous, je ne vous fais pas un dessin là non plus, c'est clair. Donc j'ai mis cette chose entre parenthèses, à contre-cœur, mais je me suis concentré sur les deux autres cycles. Et donc les deux autres, on les a redémarrés en novembre, et ils vont courir jusqu'en février prochain. Et ça, je veux bien vous en parler si ça vous intéresse.
Oui, on va en parler, je pense, justement de celle-ci, mais à la fin de la conférence de « Comment sortir du colonialisme » par Benjamin Stora. Donc Benjamin Stora qui rendait ces jours-ci au président Macron un rapport sur le sujet. À la fin de cette conférence, vous avez dit qu'il était important de ne pas rester prisonnier des discours de fermeture. Et j'ai eu l'impression que c'était aussi un des axes qui sous-tendait votre programmation.
Oui, je pense que c'est très important. Je pense que vous savez, ce garçon, enfin, j'aurais pas dire ça, comme il a à peu près mon âge, ça n'est pas non plus dévalorisant. Benjamin Stora est un homme très étonnant parce qu'il a été très solitaire dans son travail pendant 40 ans, dans un domaine qui est fortement impliqué par les débats idéologiques, politiques et les exclusives en quelque sorte. Hein. On rappelle que son histoire, c'est principalement la guerre d'Algérie. Il est né à Constantine, c'est un juif de Constantine, qui a fait toutes ses études en France, qui est un rapatrié, un fils de rapatrié après 62, après l'indépendance, et qui travaille sur la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de la colonisation, la mémoire de la guerre elle-même, et qui essaie au fond de rapprocher ces mémoires. C'est évidemment très important. Et il aura réussi son coup, c'est-à-dire que pour que maintenant le président de la République lui commande un rapport précisément sur ces questions de mémoire, c'est que vraiment il a bâti quelque chose. Et ce qui me paraît très important en effet, c'est que cette ouverture aux problématiques de l'autre, c'est-à-dire à la problématique de celui que je ne suis pas, à celui qui n'est pas ma communauté, comme on dit aujourd'hui, qui n'est pas mon identité, comme on dit aussi aujourd'hui, eh bien, elles reprennent vie, car nous avons tendance à nous replier sur ce que nous sommes, sur ce que nous croyons être, souvent, de façon un peu artificielle et assez pauvre, et donc, ouvrons-nous à la modernité, soyons résolument modernes, et cette modernité, embrassons-la tous ensemble, sans exclusive, sans fermeture, dans un esprit de découverte et d'amour réciproque. Alors ce serait interprété comme un prêcha un peu, voilà. Mais ça n'est pas ça, c'est simplement le fait que nous avons quand même quelques siècles encore à partager, j'ose l'espérer, et qu'il faut prendre les choses par leur bon bout, en quelque sorte, et bâtir ensemble. Et pour bâtir ensemble, il faut se reconnaître dans sa diversité. Je ne vous fais pas le numéro, c'est évident. Et je trouve que, pour revenir sur Benjamin Stora, il est l'illustration intellectuelle de cette ouverture, de cette capacité à fédérer. Chapeau, c'est un homme. Et je suis très content que le public, alors j'ai constaté sur YouTube qu'au bout d'une semaine, on avait plusieurs milliers de gens qui s'étaient branchés, qui étaient présents. Et ça, c'est très, très impressionnant. Et c'est vraiment encourageant.
Moi, je l'ai regardé en entier. En plus, c'est intéressant à écouter parce que c'est dépassionné. C'est tellement les faits. Mais vraiment comment dire, sans bulle de filtre, pour reprendre une expression qui est de plus en plus à la mode.
Mais
que je trouve intéressante. Parce que c'est vrai, on est tous dans nos bulles de filtre, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même en dehors. Même les algorithmes de Google, selon ce qu'on a déjà regardé, vont nous représenter, nous resservir toujours les mêmes choses. Donc, c'est intéressant d'écouter des gens qui ont vraiment une vision très globale et qui ont une connaissance des faits beaucoup plus importante que la moyenne et que les personnes qui, comme moi, comme mes amis, n'ont pas accès à tout ça. Donc, généralement, on donne son avis dans des dîners en ville ou au café du coin, on donne son avis sur des questions et en fait on n'a pas du tout les connaissances ni les compétences et c'est souvent juste émotionnel. Donc actuellement où l'émotion devient tellement vive et où tout est exacerbé, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié d'écouter cette conférence parce que c'est aussi un sujet qui a été tellement tordu dans tous les sens dans les médias pour faire dire des choses et tout et n'importe quoi à tout le monde aussi. Là il y a le temps déjà. C'est ça qui est important aussi hein, dans ces conférences, c'est que contrairement à des émissions qui peuvent être très intéressantes, mais où souvent les invités, aussi érudits soient-ils, ont un temps relativement limité pour s'exprimer, ne peuvent pas étayer, ne peuvent pas développer. Là, dans la conférence, bien que ça puisse paraître long, mais en fait, c'est passionnant et il fait lui-même, comme il est habitué, je pense, à avoir des questions, il fait aussi les demandes et les réponses. Il anticipe en fonction de ce qu'il dit, ce que ses contradicteurs, ce qui peut leur arriver dans la tête. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable à regarder. Et puis, ça donne des outils pour soi-même réfléchir au-delà des idées toutes faites et des idées vite faites, surtout.
Bien sûr, bien sûr.
Donc, je vais vous laisser nous parler un petit peu du détail de ces... Il y en a 5 ou 6, je crois,
alors, il y en a encore, sur cette saison. Jusqu'à la fin février, il y en a encore 4, si je ne dis pas.
Voilà.
Oui, il y en a 4 jusqu'à la fin février. Et donc, je peux vous évoquer en quelques mots pour planter un peu le décor et voir un peu... Je crois que ça donnera bien le sentiment de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. La première des 4, elle se tient donc mercredi prochain, c'est-à-dire le 20 janvier à 18h30. Et c'est un très grand savant que j'ai invité, Philippe Descola, qui est un très grand personnage. C'est quelqu'un dont le nom n'est pas nécessairement très connu, mais c'est quelqu'un qui est reconnu et qui est discuté internationalement. C'est un anthropologue. Il est professeur émérite au Collège de France. Il est médaille d'or du CNRS. C'est vraiment ce que la science française, pour le coup, peut donner de mieux. Et c'est un grand spécialiste de l'Amazonie. Et la conférence va porter sur l'Amazonie. Alors pourquoi sur l'Amazonie? Parce que l'Amazonie est un des poumons de la planète, comme on dit souvent, et que l'expression est absolument juste, puisque vous savez que c'est un des ressorts, en quelque sorte, d'absorption du gaz carbonique, parce que c'est une espèce de vaste forêt qui s'étend sur des dizaines de milliers d'hectares, qui est contiguë de 8 pays, je crois, et qui est peuplée par des populations autochtones qui continuent à vivre là-dessus et qui est exploitée aujourd'hui par des industries agro-exportatrices et extractives. Ça, c'est pour la réalité, je dirais, un peu socio-économico-politique de l'Amazonie. Si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est évidemment que l'enjeu pour l'environnement, de l'intégrité de cet espace de vie, est tel que si l'Amazonie disparaissait, je ne dirais pas que nous disparaîtrions avec, mais pas très loin. En tout cas, le désastre écologique serait à un point tel que les conditions de vie sur la Terre, et notamment du réchauffement de la planète, déjà pas dans un très bon état, seraient radicalement transformées. Autrement dit, nous n'avons pas le choix. Il faut que cet espace vive. Or, aujourd'hui, il y a 4 principaux acteurs qui interviennent autour de cette Amazonie. Il y a d'abord les populations autochtones donc, qui vivent là-dedans, plutôt maltraitées par les gouvernements centraux et notamment le gouvernement brésilien. Il y a les industries extractives que j'évoquais tout à l'heure et qui procèdent à des déforestations sauvages pour exploiter le sous-sol, et puis pour exploiter le bois, qui également est extrait de cette vaste forêt. Il y a les gouvernements, et notamment le gouvernement brésilien, qui dit « Écoutez, ça c'est mon affaire, vous avez les châteaux de la Loire, nous on a la forêt amazonienne, vous n'avez rien à faire là-dedans. » Et puis vous avez le monde entier autour qui dit « Mais nom de Dieu, si nous le foutons en l'air, qu'est-ce qu'on va devenir ?» sont des intérêts complètement contradictoires et il faut se débrouiller pour trouver le lieu d'une contradiction de ces difficultés parce que sinon, on va assister au pire. Je rappelle que ces 2 dernières années ont été marquées par des incendies d'une très grande violence là-bas incendie provoqué par, on ne sait pas exactement par qui, je ne sais pas si les enquêtes ont abouti, en tout cas, la suspicion était forte que les industries en question étaient quand même bien responsables de ça, parce que ça permet d'éloigner les populations autochtones et surtout d'ouvrir le champ aux exploitations dont ils se font une spécialité, en quelque sorte. Alors, je ne vais pas vous révéler ce que Philippe Descola trace comme voie de sortie, mais c'est extrêmement révolutionnaire, et c'est en effet susceptible de bouleverser pas seulement la façon dont nous approchons cette forêt amazonienne et les lieux de vie qui s'en rapprochent, mais tous les lieux de vie, autrement dit, l'ensemble de la planète elle-même, qui serait approchée selon une conceptualité, comme disent les juristes, complètement nouvelle et qui s'imposerait en quelque sorte aux organisations internationales. Alors, je lui laisse le soin, évidemment, de révéler la nature de ce qu'il bouleverse de nos catégories. Il faut bien comprendre qu'il va, au cours de cette conférence, casser complètement l'idée que nous nous faisons des rapports entre la nature, c'est-à-dire ce qui nous environne, et ce que nous sommes, c'est-à-dire ce que nous produisons, c'est-à-dire la culture, entre ce qui est le vivant et le non-vivant, entre ce qui est humain et non-humain, et comment penser ces catégories ensemble. C'est vraiment quelque chose à ne pas manquer, et l'enjeu est suffisamment important pour qu'on s'imprègne de cette pensée qui est véritablement révolutionnaire. J'utilise le mot, je crois, à dessein. Alors, ensuite,
comme je précise juste que nous, aujourd'hui, on enregistre le 19. Cette conférence, c'est demain. Donc, l'interview, elle sera mise en ligne, notre interview, la semaine prochaine. D'accord. Je mettrai le lien pour que tous ceux qui nous écoutent n'aient qu'à cliquer. En un clic, ils pourront rejoindre la conférence dans les jours, les semaines, les mois qui viennent sur YouTube.
Très bien. Alors, la deuxième conférence qui, elle, se tiendra le mercredi 27 janvier à 18h30, donc 8 jours après celle de Philippe Descola, eh bien, c'est une conférence qui intervient dans le cadre des penseurs d'hier et d'aujourd'hui, et c'est une conférence sur Albert Einstein. Alors, l'auteur de cette conférence, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Étienne Klein, qui est connu parce qu'il a une présence sur les antennes de France Culture, on le connaît, bon, il publie beaucoup de livres, d'essais et de recherches scientifiques, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et qui a un vrai talent de vulgarisateur, mais c'est un physicien, avant tout, c'est un philosophe des sciences, c'est quelqu'un qui dirige au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, un laboratoire de recherche, donc c'est d'abord un chercheur, il se trouve que c'est un chercheur qui communique, mais c'est pas non plus un pur vulgarisateur, c'est une notion qui est toujours très compliquée. Einstein, je vais pas vous raconter sa vie, mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette affaire, c'est évidemment, c'est un des plus grands personnages qui soit, c'est un personnage le plus originaux qui soit dans l'univers de la science. Il faut savoir que lorsque le magazine Times a fait une enquête dans les années 2000, au début des années 2000, pour que le public américain désigne l'homme du XXe siècle, et bien c'est lui qui a été désigné avec une très très large avance sur ses concurrents. Et il y a tout un contexte, le type est vraiment sympathique, s'est engagé politiquement, c'était un pacifiste, il a position plutôt de gauche et d'une gauche fraternelle, d'une gauche ouverte, d'une gauche, enfin, c'est tout ce qu'on aime, quoi, quand on est de ce bord-là. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Einstein lorsque son fils, son second fils, Edouard, lui demandait, mais comment t'as fait pour devenir si célèbre? Question d'un fils à un père, un peu naïf. Et alors, Einstein lui a répondu, quand un scarabée aveugle marche à la surface d'une branche incurvée, il ne se rend pas compte que le chemin qu'il suit est lui aussi incurvé. J'ai eu la chance de remarquer ce que le scarabée ne peut pas voir. Et c'est au fond toute cette humilité qu'il affiche à travers cette phrase, ce sens aussi pratique et ce sens de l'observation, cette communauté au fond de destin avec une certaine animalité et le monde vivant qui nous entoure, qui fait, je crois, qu'on a envie de savoir qui est ce type, d'où il vient et comment il est parvenu quand même à développer ces théories complètement, imprévisibles et imprévues, d'une part de la relativité restreinte en 1905, et puis ensuite de la relativité générale en 1915. Donc on comprendra à la fois les tenants et aboutissants de ces théories, la façon dont elles ont été reçues, critiquées, mises en cause, ce qu'il en reste, et également l'inscription de l'homme dans son temps. C'est exactement ce que j'attends de ce cycle de penseurs d'hier et d'aujourd'hui. Et puis nous aurons une troisième conférence le mercredi 10 février à 18h30 toujours. C'est une conférence qui revient sur l'un des axes du cycle Où va le monde dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la question de la démographie et des grandes migrations, qui fait suite donc à cette projection qu'Hervé Le Bras nous a fait pour nous de la démographie à l'horizon 2030 et qui cette fois-ci s'intéresse aux migrations en Europe à l'horizon 2030. Alors, pourquoi ça ? L'enjeu politique est évident. Les migrations, c'est vraiment l'épouvantail, c'est la menace, c'est comment ça va se passer. Et c'est vrai que les réalités des mouvements de population à la surface du globe, c'est quand même des choses les plus inquiétantes qui soient et les plus déstabilisantes pour les États. On a tous en mémoire ce qui s'est passé en Allemagne en 2015 et dans d'autres pays. On sait la mer Égée, les problèmes en Turquie, les problèmes en Syrie, les problèmes en Irak. Donc, on est dans cette expectative. Mais il y a eu aussi, vous le savez certainement, une polémique il y a 2 ans entre un journaliste, Stephen Smith, et François Héran, qui est donc le conférencier que j'ai invité, qui lui aussi est professeur au Collège de France. Et Stephen Smith avait avancé cette hypothèse qu'au fond, il y aurait une espèce de déferlement d'Africains, de dizaines de millions d'Africains qui allaient arriver en Europe sous l'effet de ce que je vous ai signalé tout à l'heure, c'est-à-dire un taux de fécondité plus élevé en Afrique noire, notamment dans l'ancienne Afrique coloniale française, et qui provoquerait inévitablement, un déferlement donc de ces populations vers l'Europe. Il se trouve que François Héran, qui travaille avec les instruments de la démographie, donc là encore avec des instruments techniques et de savoir technique, qui ne prétend pas avoir la science infuse, qui ne peut d'ailleurs pas maîtriser les conflits, parce que c'est aussi les conflits qui déterminent les migrations. Mais dans son domaine à lui, donc dans celui qu'on lui oppose pour annoncer un déferlement, il dit absolument pas. Et donc il démontre pourquoi. C'était une des raisons pour lesquelles je voulais entendre ses arguments et entendre comment il va s'inscrire en réaction en quelque sorte contre ce chiffon rouge qui est agité par tous ces... Pas ses adversaires, parce que c'est pas lui qui est visé particulièrement, enfin tous les gens qui prétendent qu'il faut vraiment que l'Europe se ferme et se prépare à élever des murs face à une inévitable migration. C'est le Collège de France qui débarque avec lui, c'est pas rien non plus, et je suis quand même très content qu'il ait accepté de faire cette conférence. Et alors, la quatrième et dernière, au fond, de cette année-là, puisque, encore une fois, elle a été décalée, elle se tiendra le mercredi 17 février à 18h30, toujours. Et alors là, c'est un personnage que vous ne connaissez pas, et c'était ça la petite chose un peu comique que je voulais dire tout à l'heure. Lui, il n'est pas comique du tout, c'est un microbiologiste et virologue belge, réputation mondiale, co-découvreur du virus Ebola, ancien directeur de l'UCIDA, donc de questions du SIDA, et aujourd'hui directeur du très sérieux Centre de médecine et d'hygiène de Londres. On sait que c'est un des hauts lieux de la recherche sur tout ce qui est virus, tout ce qui est microbes, tout ce qui est pandémie, etc. C'est donc un très très grand spécialiste de toutes ces questions. C'est en juillet que j'ai pris contact avec lui lorsqu'on a décidé de redécouvrir.
En juillet de quelle année ?
2020, oui, c'est vrai qu'on finit par s'y perdre. Quand il a imaginé de redéployer un peu notre programme. Parce que, moi, je fais une toute petite parenthèse, quand on a décidé d'installer le module auquel on peut participer aujourd'hui, évidemment, ça m'a amené à réviser le programme qu'on avait fixé pour l'amphithéâtre. J'ai conservé certaines des conférences, parce qu'il n'y a pas de lieu de les programmer. J'en ai renvoyé d'autres à plus tard, et j'ai introduit quelques conférenciers pour réagir à une actualité plus brûlante, notamment celle introduite par la crise sanitaire. Et c'est évidemment le cas de Peter Piot, puisque tel est son nom, Peter Piot, et je l'ai invité à prononcer une conférence, je vous le donne en 1000, « Les pandémies du futur ». Alors, terminer le cycle sur les pandémies du futur, alors qu'on est tous en confinement, on pourrait voir là soit l'œuvre d'un sadique absolu, d'un type qui n'a pas conscience des choses, etc. Mais encore une fois, c'est une décision que j'ai prise en juillet. Et voilà, donc, je le regrette d'ailleurs absolument pas, parce que, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour parler des choses, mais ça paraît un peu paradoxal de replonger les gens dans cette affaire-là, alors que. Mais il aura évidemment, au-delà de tracer les terribles épreuves qui nous attendent dans les décennies qui viennent, il aura le souci de montrer aussi comment on en sort, ce que les pandémies nous apprennent, comment ça se passe ici et là dans le monde, bref, de nous mettre dans une dynamique de sortie de cette épreuve, tout en nous informant sur ce qui certainement nous attend dans des siècles et des siècles. Voilà, en tout cas, ce sera assez amusant, et surtout assez amusant de voir comment le public réagit à cette conférence. Et alors, après ça, le programme est évidemment, le programme donc, de l'année sera terminé. On aura à nouveau un espace où l'Université populaire se mettra entre parenthèses pour faire place à un programme très spécifique qui courra jusqu'au mois de juin suivant sur l'Afrique. Africa 2000, programme qui a été fixé à l'initiative du président de la République.
Africa 2000 ou 2020 ?
J'ai dit 2000, excusez-moi, c'est 2020. 2020.
C'est dans le cadre de toute la programmation Africa 2020.
Ses effets en 2021. C'est pour ça qu'il y a de raisons de s'embrouiller un peu. Donc, il va réunir plusieurs institutions de théâtre, de musées, etc., autour de l'Afrique, et prenant l'Afrique comme enjeu et comme centre d'intérêt, étant entendu que l'idée est qu'on fait parler de l'Afrique principalement par des Africains. Ce qui est bien, ce qui rend compte d'une nécessité, je crois. Et donc, ce programme, qui est disponible sur le site du musée, courra, je vous l'ai dit, jusqu'à l'été prochain. Et puis ensuite, l'université reprendra ses droits et ses activités, j'ose l'espérer, en toute liberté, comme vous le suggériez vous-même au début de cet entretien.
Et je me demandais, en préparant cette interview et en regardant votre parcours, votre long et riche parcours, vous, avec quelques décennies d'expérience depuis votre poste d'observation en tant qu'éditeur et historien, un poste d'observation qui a pu vous offrir un angle de vue particulier sur l'évolution de notre société et du monde, aujourd'hui, en 2021, que pensez-vous qu'il manque à notre époque ?
Ah, c'est une sacrée question que vous me posez. Vous savez, je pense que je vais vous faire une réponse qui engage beaucoup de l'histoire contemporaine. Je pense que la chute du mur de Berlin a été évidemment une respiration formidable pour les peuples du monde, à commencer par les peuples de l'Est européen qui étaient en prison, en quelque sorte, dans cette affaire. Mais il y a eu des conséquences aussi chez nous qui ont été de désenchantement du monde. C'est-à-dire, le monde fonctionnait selon une ligne de clivage simple, hein, jusque-là, c'était la fin de la guerre froide. Le communisme d'un côté, le libre entreprise et le capitalisme de l'autre, les États démocratiques de ce côté-là, de l'autre des États totalitaires. Et puis, le capitalisme et les États démocratiques ont perdu leur ennemi préféré, qui s'est évidemment qui a été complètement détruit et dynamité pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons, nous avons perdu Dieu, en quelque sorte, depuis la fin du XIXe siècle. Hein, c'est Nietzsche qui en a marqué l'enterrement et la disparition. Et puis, le XXe siècle est le siècle de toutes les destructions, de toutes les guerres, d'une guerre absolument épouvantable, et se terminant par ce désenchantement que je vous dis, nous sommes restés un peu dépourvus de sens, comme on dit. Plus d'idéologie, plus de croyances spontanées en direction des religions, etc. Qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste à reconstruire. Et c'est ça qu'il faut que nous nous mettions en tête. La société évolue trop, de mon point de vue, dans un sens victimaire, c'est-à-dire nous sommes victimes de ceci, victimes de cela, victimes de l'État répressif, victimes de machin, etc. Prenons-nous en main. Et prenons-nous en main, je dirais, fraternellement, c'est-à-dire dans la reconnaissance qu'on a commencé notre entretien là-dessus, que nous appartenons à une communauté. Communauté divisée, nous n'avons pas tous les mêmes intérêts, mais installons cette communauté de division, en quelque sorte, comme une sorte de patrimoine intellectuel, de trousse à outils intellectuels qui nous permet d'envisager, de bâtir ensemble un monde viable. Ce qui est nouveau et que nous devons très largement aux générations nouvelles, c'est que nous avons pris conscience que le monde, au fond, avait pas, le monde des humains, l'expérience humaine avait partie liée avec la nature. On ne peut plus rien faire sans elle, et il faut donc non seulement la protéger, mais apprendre à vivre avec elle et à trouver une forme de cohabitation avec elle. C'est un sacré programme, si on veut bien y réfléchir. Des philosophes s'en préoccupent, des scolas, ils s'en préoccupent, hein, c'est de ça qu'ils parlent. Mais d'autres le font aussi. Donc ce programme écologique, comme on dit, c'est pas simplement mettre des petites fleurs dans les jardins et retirer les horribles bâtiments qui enlaidissent l'entrée et la sortie de nos villes. C'est prendre conscience qu'il y a là un projet partagé et qu'il nous faut instituer. Et donc, qui appelle une revisitation de toutes nos catégories mentales, de toute notre capacité politique, de toute le, y compris dans l'ordre international. Quel programme formidable pour les jeunes qui sont à l'université, pour les jeunes qui n'y sont pas aussi, mais qui peuvent aussi s'engager dans sous des formes associatives, accéder à des formes de savoir que les réseaux, que les médias aujourd'hui autorisent et favorisent. Vous en êtes un et vous faites un travail formidable. Donc, c'est de sacrés défis que nous avons devant nous et des possibilités d'action. Mais je crois qu'il faut sortir de la position victimaire et du repli individuel sur nos petites identités qui, à l'échelle du monde, franchement, n'ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà ce que je dirais pour répondre à votre question.
Ben, ça me semble pas mal pour partir sur une conclusion, parce que c'est effectivement, je pense, ce que vous venez de décrire. Moi, ce que j'ai ressenti au travers de votre programmation, de toutes ces conférences de l'Université populaire du musée du Quai Branly, parce que ce sont des conférences et des personnalités que vous avez choisies qui nous permettent justement d'ouvrir nos esprits, de trouver comment penser autrement, de sortir de nos, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, nos réflexes conditionnés, de toujours penser de la même façon, parce qu'on s'est habitué à, et on nous a habitués peut-être aussi à penser d'une certaine façon, en nous présentant toujours les choses de la même façon depuis l'école. Et aujourd'hui, on voit qu'il faut un petit peu tout remettre à plat sur la table, et après, on peut effectivement partir sur une note positive en se disant que tout est possible maintenant dans ces différentes reconstructions de nos rapports les uns avec les autres et aussi surtout avec la nature, notre façon de ne pas forcément nous positionner en tant que dominant par rapport à la nature, ce qui a été beaucoup dans notre société la position au XXe siècle et sans doute... Ça date un peu de plus loin même. Mais en tout cas, pour ma génération, c'est vrai que c'était installé comme ça. Donc après, c'est facile, c'est confortable de ne pas remettre en question toutes ces façons de penser qui ne vont plus. On voit qu'il faut les remettre en question aujourd'hui.
Absolument. Alors, si vous m'autorisez un dernier mot, vous aurez peut-être observé que lorsque j'interviens dans les questions aux conférenciers, à titre tout à fait personnel, pas seulement pour lire les textes qui s'inscrivent sur le fameux écran, j'ai toujours le souci... au fond, de les amener à raconter un peu leur parcours. C'est-à-dire, je le fais avec Benjamin Stora, qui a très bien répondu à cette interpellation. L'idée, c'est de montrer qu'on ne naît pas chercheur ou qu'on ne naît pas grand savant, que c'est l'aboutissement d'un travail. Et d'un travail souvent ingrat, difficile, auquel il faut s'acharner, et qui n'est pas joué d'avance. Hein, quand un fils de rapatrié d'Algérie se retrouve là, etc., il faut y arriver, hein, ou à remettre un rapport au président de la République. C'est un sacré boulot. Alors, c'est intéressant de savoir comment il s'y est pris, et je pense que ça désinhibe le participant, le spectateur, l'auditeur, en pensant qu'il n'y a pas de raison que lui aussi ne puisse pas y parvenir. C'est dans cet esprit-là que je pose cette question. C'est pour toujours rapprocher le spectateur de l'action et de sa responsabilité, en quelque sorte. Vraiment.
Voilà, donner envie.
Oui.
De se mettre en mouvement.
Bouger.
Il y a une phrase d'Einstein, justement, sur cette idée de se mettre en mouvement que j'aime beaucoup et qui est une de mes devises, mais je la connais en anglais, mon anglais est assez moyen. Mais par contre, si je la traduis un petit peu à l'arrache en français, il disait que pour tenir l'équilibre et avancer, quand on est à bicyclette, il faut se mettre en mouvement.
Juste, ouais. Oui, mais ça, c'est toute la théorie de la relativité, je vous signale. À partir de là, vous pouvez présenter la théorie. Donc, c'est une très bonne citation. Et par ailleurs, très bonne métaphore de ce que nous évoquions sur la nécessité de s'investir et de prendre des responsabilités dans le monde qui nous entoure, bien sûr.
Et vos conférences, cette programmation invite, je trouve, à se mettre en mouvement. Donc, on en a bien besoin en ce moment, parce que l'époque et les difficultés actuelles pour beaucoup d'entre nous et sur toute la planète avec cette pandémie peuvent entraîner un petit peu ou beaucoup de déprime, de dépression, de résignation. Et donc, d'écouter des choses comme ça, même si on est coincé chez soi et qu'on ne peut les voir que sur Internet, mais qui mettent nos esprits en mouvement et nous donnent envie d'agir et de nous remonter les manches, je crois que c'est vraiment indispensable à l'heure actuelle. Donc, merci beaucoup.
Merci à vous, Anne-Grève. Merci beaucoup.
J'ai eu un grand plaisir à vous rencontrer, Olivier Bétourné, et je vais mettre tous les liens sur la description du podcast pour que toutes nos éditrices et tous nos auditeurs puissent aller écouter et regarder cette belle programmation de conférences. C'est donc l'Université populaire du musée du Quai Branly. Olivier Bétourné, merci encore et peut-être à bientôt dans votre beau théâtre au musée du Quai Branly.
Le plus tôt sera mieux. À bientôt.
Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.